Attention, nous commençons dans un quart d'heure.
Mais même si tu n'étais pas ici maintenant, même comme si j'avais une ombre de plus, une deuxième âme, une. Et de quoi s'agit-il ici en fait ?
Le gîte disait, on a le public qu'on mérite. Et je crois que c'est une très bonne définition. Et nous voudrions que le théâtre que nous aimons soit le théâtre populaire.
Ce n'est jamais un comédien, ce n'est jamais un régisseur ou metteur en scène qui provoque une révolution profonde des techniques du théâtre, c'est toujours un auteur.
Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en direct de la Calade pour la première émission en public et en direct de l'Écho des Planches. On commence dans un quart d'heure. Aujourd'hui, nous recevons David Léon. David Léon, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais vous présenter rapidement. Vous avez une formation de comédien au Conservatoire de Montpellier et de Paris. Et vous êtes un auteur également, publié chez Espace 34. Donc votre première œuvre est publiée en 2011, il s'agit d'Un Batman dans ta tête, Suive père et fils en 2012, Sauver la peau en 2014, créé pour France Culture, et la même année, Un jour nous serons humains, présenté lors des Sujets à vivre 2014 au Festival d'Avignon. Puis vous avez publié La nuit nachère en 2016, qui a fait l'objet d'une création en février dernier par Alexis Lameda-Waxman avec Stéphanie Marc au Théâtre de Latte près de Montpellier. Et votre dernier texte a été publié en mars de cette année, il s'agit de Neverland. À signaler également la publication d'un petit texte dans la revue Parage numéro 2 d'avril 2017, la revue Parage du TNS, publiée au Solitaire Intempestif, intitulée « Accord perdu » et qui est précédée d'une sorte d'éloge de Joël Gaillot qui parle de vos textes. Alors, vous êtes aussi aujourd'hui dans cette émission puisque vous avez une actualité dans le festival d'Avignon Off, puisque vous allez faire des lectures à l'Artéphil dans le cadre de l'événement Artéphil Les Officieuses. Donc, vous lirez Neverland au Théâtre Artéphil à 18h le 19 juillet. Vous sera lu par Frédéric Dufour de la Compagnie des Grisettes les jeudis 20, vendredi 21 et samedi 22 juillet. Un jour, nous serons humains à 20h. Voilà, alors avant que nous entrions dans le vif du sujet, je vous propose à vous public et à vous auditeurs d'écouter un premier extrait qui est un extrait de Neverland, publié en mars dernier.
Les vagues s'effondrent dans mon esprit. 22 millions de dollars, ils m'ont appelé Bambi. Je ne peux plus chanter ni même danser. Je pose mes doigts, du bout de mes doigts, sur les agrafes. Je palpe mes mains, du plat de mes mains, sur les sutures et sur les gaz. Le sang est noir sous les pansements et le savon me lave mes plaies cousues et recousu, la bétadine et le mercurochrome dans la civière. Je passe mes bras le long de ma taille. « Mettez vos mains sur mes épaules », a dit le chirurgien. « Bientôt, vous marcherez. » Je ne vois rien. Il y a si peu de lumière, Jimmy. Je veux sauver le monde, soigner le monde et les enfants. Il y a eu tellement d'amour, tant de tueries et de massacres. Le bal des lamantins ensanglantés, les tigres du Bengale et les toucans, les raies manta océaniques qui meurent en moi comme mes enfants, Jimmy. Je rends la gratitude, cette lumière en soi que je chéris. Je remercie et puis j'honore notre univers. Ces particules se meuvent en moi comme mes enfants. Mon Dieu, leur cœur fut tellement sombre. C'est un complot comme des couteaux, des poings américains au fond de mon âme. Et puis ton père s'est suicidé, Jimmy, dans son appartement. Il est maintenant trop tard, ma bouche est sèche, et tellement sèche de cortisone, et j'ai si froid, Jimmy. Je veux rejoindre la scène, ces projecteurs braqués sur moi, mais je ne peux plus maintenant. J'ai tellement peur, je veux soigner le monde, sauver le monde et les enfants, et le guérir. Prenez mes larmes comme dans un suaire, enroulez tel un chapelet dans un ossuaire. Les vagues se brisent dans ma mémoire, c'est un chantage. Ils t'ont drogué, mon beau Jimmy, une forte drogue. C'est un barbiturique, très très puissant. Ton père l'a fait, mon beau Jimmy, et tu as dit d'énormes mensonges. Moi, je voulais sauver le monde, guérir le monde et le soigner comme mes enfants. Il y a eu tellement d'amour et tant d'accusations. Je tombe dans l'amnésie, mon beau Jimmy, mon bel enfant. Les vagues s'écroulent au fond de mon cœur. Un monde sans loi, des chasses à la baleine, des baleines franches, australes ou boréales, le saut des orques et des rorquales pour leur spectacle. Un monde s'éteint. Et nos étoiles extraordinaires, et nos oiseaux de paradis. Il y a eu tellement d'amour, mon beau Jimmy.
Voilà, alors nous venons d'entendre un extrait de Neverland. Alors Neverland évoque, on pourrait dire, un thème de société, la pédophilie. Et peut-être pas tout à fait, on va peut-être même sûrement nuancer. Mais disons que ça me fait penser à un très beau spectacle que tu as peut-être vu et qui est passé à Montpellier au mois de mars au théâtre de la Vignette, qui s'appelle Assesso. Est-ce que tu as vu ce spectacle?
Non, je n'ai pas vu.
Non, alors je vais partir de la manière dont ce thème est abordé dans ce spectacle pour qu'on réagisse à la manière dont c'est abordé dans ton œuvre.
Oui.
Alors ce spectacle Assesso de Pablo Larraín, qui était au cinéma dernièrement pour le film biopic sur la femme de Kennedy, c'est la même personne. Il a fait un spectacle qui évoque les abus sexuels des religieux au Chili et leur approche est véritablement terrifiante. Irradier le public et le mettre vraiment mal à l'aise, qu'on se sente vraiment coupable de notre silence. Et j'ai une autre impression en lisant Neverland, dont on vient d'entendre là un extrait, et même dans un Batman dans la tête où le sujet est évoqué, mais je m'interroge quand même là-dessus, est-ce que tu veux créer le malaise en évoquant cette thématique ou ce sujet?
Pour moi, c'est moins la question d'évoquer le malaise que la question dans l'écriture de Neverland, pour le dire autrement, c'était de pouvoir faire ressentir au lecteur et ensuite au spectateur ce que peut éprouver un enfant. Donc c'est pas tant susciter un malaise que d'éprouver, que de le ressentir, disons. Je dis ça parce qu'il peut y avoir un gros écueil à vouloir dénoncer, par exemple. Alors que la question que je me suis posée, c'était davantage de faire ressentir. Et du coup, ça enlève aussi, je crois, dans Neverland, la question morale. Ça déplace la question morale, qui est évidemment présente, mais du coup, comme le lecteur, je crois, ou le spectateur l'éprouve, c'est lui qui fait le travail, de son côté, disons. C'est pas au cœur de la pièce.
On reviendra dessus, sur cette dimension, évidemment. J'aimerais d'abord parler de la forme de ton écriture. Et il y a, je trouve, une caractéristique assez contemporaine, disons, c'est que tu utilises véritablement des procédés rhapsodiques de fragmentation et de séquençage des pièces, où les temporalités sont un peu immobilisées, sont pas vagues, mais disons, voilà, il n'y a pas vraiment de frontières.
Elles sont fragmentées,
elles
on pourrait dire.
Elles sont fragmentées.
Oui.
Et voilà, justement, cette pulsion rhapsodique, c'est la possibilité de tailler pour toi dans le vif de la langue et des registres, et la possibilité de finalement tout mélanger. Parce que quand on lit tes œuvres, on a l'impression à chaque fois de lire une écriture différente. Et c'est vraiment intéressant. Et justement, ce que j'appelle cette pulsion rhapsodique, est-ce que ça te paraît définir la manière dont t'écris, ou est-ce que tu dirais autrement?
Oui, c'est assez juste.
Et du coup, pourquoi ces procédés de fragmentation? Quel intérêt pour toi dans ta manière d'écrire, dans ta démarche?
Alors, à vrai dire, ça se présente comme ça dans l'écriture. Ça se présente à moi comme ça dans le déclenchement de l'écriture. Moi, j'y réfléchis pas au point de départ, en fait. Il s'avère, en fait, que pour Neverland, au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte que ça allait se construire et se constituer comme ça. Après, dans l'après-coup, quand je prends plus de distance par rapport au texte, pour moi, cette forme de la fragmentation, du puzzle, ça correspond en fait assez, je crois, à comment on fonctionne nous-mêmes, en fait, dans notre mémoire, dans nos rêves, dans la manière dont on peut, dont la pensée non dite sur la journée, sur le quotidien, comment on passe d'un souvenir très ancien quand on était enfant à une pensée très très concrète à ce qu'on est en train de faire maintenant, à ce qu'on va faire demain. En fait, dans notre psychisme, disons, il y a comme un voyage comme ça tout le temps, comme des tentacules, on pourrait dire.
Et justement, c'est presque tes œuvres, une espèce de voyage intérieur, j'ai l'impression, des lieux intérieurs qui sont toujours dévasté, j'ai l'impression, avec une catastrophe toujours accomplie. Et justement, cette catastrophe, j'ai l'impression qu'elle se situe dans ton œuvre entre la psychose et la névrose. Et je me demandais quelle frontière tu trouves, toi, entre la névrose et la psychose. Peut-être préciser ce que toi, tu entends par ces deux termes.
Alors la psychose, si on est strict au niveau clinique, on pourrait dire oui, que mon écriture rejoint une écriture psychotique, c'est-à-dire que chez le psychotique, le corps est complètement fragmenté. Le psychisme, l'image du corps et le psychisme, c'est complètement fragmenté, c'est dissocié même quelquefois. Je ne sais pas quel exemple je pourrais donner, mais le névrosé, pas du tout. C'est complètement le corps, on a l'image de notre corps, c'est complètement lié, quoi. C'est contenu.
Et du coup, est-ce qu'il y a une frontière entre les deux que tu explores?
Oui, il y a une frontière, je pense qu'on a tous en commun, névrosé, je veux dire, c'est le monde des rêves, notamment, où on voit dans le monde des rêves, quand on rêve, qu'on entend des voix, quelquefois.
Et justement, dans Neverland, on a un personnage qui s'appelle Sosie. Est-ce que ce personnage, c'est la voix du rêve ou pas du tout? Comment est-ce qu'on peut l'interpréter
Alors pour moi, Sosie, c'est plus une déclinaison de... comment dire? C'est pas tant le... Non, ça correspond pas vraiment à l'endroit du rêve. C'est que je me suis demandé dans Neverland à un moment donné comment parler de la dimension artistique de Michael Jackson, sans rentrer dans un cliché, dans des choses déjà connues, déjà entendues. Donc j'ai cherché et je suis tombé sur des images de Sosie, sur des interviews de Sosie. Tout ça, c'est complètement fascinant. Puis ça raconte aussi quelque chose du trouble de l'identité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est de subtiliser une image de soi à une autre, quoi. Et puis, il s'avère que le sosie, en fait, dans la dramaturgie, c'est notamment dans la pièce de Molière, c'est l'esclave du maître. Hein, c'est celui qui prend l'image du maître. Donc,
dans Amphitryon.
Voilà, dans Amphitryon. Donc ça me permettait, dans une ligne de fond, de continuer de raconter quelque chose de l'esclavage.
Et justement, peut-être que tu viens de parler d'esclavage, et je vais rebondir dessus. Dans Neverland, la relation qu'on a entre le personnage de Michael, tu dis, il y a une insiste très très drôle au début de la pièce, ça peut être dit en français ou en américain,
oui.
Et j'ai trouvé ça assez drôle. Et enfin, je ne sais pas si c'est fait pour être drôle, mais en tout cas, c'est assez drôle quand on lit comme ça. Et le personnage de Jimmy, il y a une relation d'amour ou d'esclavage entre les deux?
Il y a une relation de domination. Donc oui, il y a une forme d'esclavage là-dedans, avec toute l'ambiguïté que peut traîner et colporter la domination.
Donc pour passer, on reviendra à Neverland après, hein, mais pour brosser un peu, enfin brosser, le terme est un peu métaphorique, mais disons pour essayer d'avoir un en vue d'ensemble de ce que tu as pu écrire, j'aimerais qu'on vienne à parler de Un Batman dans ta tête. Alors c'est un texte assez intéressant, il s'agit d'une sorte de soliloque, hein, enfin c'est comme ça qu'il est présenté, en tout cas je ne sais pas si c'est une note d'éditrice ou si c'est toi qui le définis comme ça.
C'est commun, enfin, c'est une réflexion avec l'éditrice, oui.
Alors donc c'est un soliloque qui confronte les pensées d'un adolescent à une troisième personne du singulier qui viendrait retracer sa vie intérieure. Et on trouve dans les premières phrases du texte, hein, dans la première page, cette très belle citation sur laquelle j'aimerais te questionner. Alors je lis cette petite phrase, donc extraite de Un Batman dans ta tête. Le père, il te disait qu'on n'arrêtait pas de tout détruire pour se construire, qu'on ne savait pas faire autrement que tout détruire, tout pour se construire tout le temps. Il était temps, il t'avait dit le père, d'apprendre à construire pour se construire. Alors quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas là la métaphore de l'écriture? Est-ce que, voilà, en écrivant ce morceau de phrase, détruire pour construire et apprendre à construire pour se construire, est-ce que c'est pas l'itinéraire de tout écrivain que tu évoques dès ta première œuvre?
Oui, c'est assez juste, oui. Oui, c'est ça.
Et du coup, pour en venir peut-être un peu à comment tu es arrivé à l'écriture, puisque j'ai rappelé que tu avais une formation initiale de comédien, est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu es passé à l'écriture? Comment est-ce que tu peux passer du plateau au texte?
Par la lecture, beaucoup, en fait. Quand j'étais en formation de comédien, c'est là où j'ai lu beaucoup. J'ai lu beaucoup Duras, j'ai lu beaucoup Dostoïevski, et puis, comment dire, ça m'est un peu tombé dessus. J'étais complètement fasciné par l'écriture de Duras, beaucoup, au début. Et donc, j'ai commencé à écrire.
Du coup, tu as déjà eu une longue expérience de comédien et de lecteur de théâtre avant d'écrire du théâtre.
Avant d'écrire, ouais. Ouais, ouais, pour le théâtre.
D'accord.
Après, avant Un Batman dans ta tête, en fait, je suis passé par beaucoup de pièces qui étaient dans un registre, disons, plus classique ou dans un cliché de la pièce de théâtre, avec des dialogues, avec des situations. Et ça passait pas. Ça passait pas au niveau de l'édition, je veux dire, parce que ce que je voulais, moi, c'était que le texte devienne un livre et puisse être lu comme n'importe quel livre, je veux dire. C'est là où je salue le travail de Sabine Chevalier aux éditions Espace 34, qui est vraiment dans cette ligne éditoriale-là, c'est-à-dire considérer le texte de théâtre comme un livre, comme tout livre, voilà. Et puis au bout d'un moment, comme ça ne passait pas, comme je n'y arrivais pas, je me suis dit, bon, je vais tout reprendre à zéro et je vais y aller phrase par phrase, hein, ce que j'ai fait avec Un Batman dans ta tête.
Et du coup, il y a eu un vrai travail d'accompagnement pour ta première œuvre, disons, avec Espace 34.
C'est le début d'un... Oui, d'un dialogue, je pourrais dire, ensemble.
Alors, on va revenir sur Un Batman dans ta tête, mais on va pas raconter l'histoire, hein, parce que il faut laisser les auditeurs découvrir l'histoire avec leur propre manière de la voir, leur propre regard, parce que tu as bien dit que la première chose que tu as dit, c'est je laisse le spectateur, enfin, je laisse le lecteur se faire l'idée qu'il veut. Et donc, il y a finalement quelque chose qui m'a touché dans Un Batman dans ta tête. C'est la parasite. Enfin, on a un texte qui, je le rappelle, est à la troisième personne du singulier. Et tout d'un coup, à la fin, on a le jeu qui apparaît. Ce jeu presque lyrique, j'ai envie de dire, même s'il ne l'est peut-être pas. Comme si les personnages, finalement, ne pouvaient dire je dans ton œuvre que s'ils étaient morts. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça?
Je sais pas, parce que celui de Sauver la peau, celui qui parle dans Sauver la peau, il dit je, il est pas mort, mais
c'est plus facile de dire je quand on est mort, tu penses?
Non, je crois pas. C'est une question difficile, ça. En tout cas, c'est lié pour moi à la parole, le fait de pouvoir retrouver la parole. La visée du texte dans Un Batman dans ta tête, dans l'écriture même, au départ, il devait s'appeler le texte. J'avais dans l'idée je m'étais dit, le texte s'appellera l'enfant qui ne dit jamais je, celui qui ne dit jamais je, avec l'idée que les derniers mots du texte, ce serait d'arriver à ce je, qui est pour moi comme de retrouver la parole, comme de retrouver la possibilité de pouvoir parler en son nom, voilà. Alors dans Un Batman, ça passe par la mort, par le fragment, par la perte, par la remémoration, c'est tout un chemin, voilà.
Oui, il y a tout un cheminement du personnage qui est assez intéressant. Et je me demandais pourquoi tu en es venu finalement à ce texte, à l'histoire de ce jeune adolescent. Comment est-ce que l'idée a pu t'être inspirée?
Parce que ce jeune adolescent, c'est mon frère, et que donc, voilà, c'était une manière pour moi de alors je ne sais pas très bien comment le dire, mais il fallait absolument que je parle de l'histoire de ce frère. Dans mes textes, il y a toujours un ancrage, à un moment donné, dans un point de réalité, disons. Voilà.
On reviendra sur cette dimension dans Sauver la peau, du coup. Et il y a une expression dans Un Batman dans ta tête que j'ai trouvé vraiment très, très jolie. Enfin, je ne sais pas si jolie c'est le mot, mais en tout cas, très, très intéressante. À un moment, tu dis que, je ne sais plus la phrase exacte, mais en tout cas, l'expression apparaît « décrier les cris ».
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, « décrier les cris » ? Il faut décrier les cris.
Ah ben, c'est comme un... au moment où il parle, cet adolescent, Mathieu, dans la pièce, ou la voix qui parle en lui, décrier les cris, ça rend compte d'un non-sens, en fait, et d'un enfermement. Et l'écriture et la prise de parole dans le texte, c'est une manière de sortir de l'enfermement et, en quelque sorte, de redonner du sens aux cris. Mais c'est un peu le travail sur chaque texte, en fait, je pourrais dire. Pour moi, en fait, les textes, le cœur des textes et le point de déclenchement, notamment d'un Batman dans ta tête, c'est toutes les situations qui font honte et qui coupent la parole. Et l'écriture est un moyen de sortir de la honte, de retrouver la parole et de pouvoir dire « je », voilà.
Et justement, pour en venir à Sauver la peau, qui apparaît comme une espèce de suite à un Batman dans ta tête, cela évoque l'itinéraire d'un éducateur spécialisé, frère de Mathieu, l'adolescent troublé du Batman. Et du coup, on en a parlé avant le direct, mais tu travailles dans ce domaine, dans le milieu psychiatrique, enfin en tout cas, tu es éducateur spécialisé, oui, dans un institut. Et du coup, je me demandais cette manière de mettre en écriture, peut-être, parce que ce que tu fais tous les jours, c'est est-ce que il y aurait quand même, j'ai l'impression quand je lis le texte, une critique sociétale derrière la manière dont ces jeunes pourraient être pris en charge. On sent parfois, c'est peut-être un ressenti que j'ai en lisant, mais on sent peut-être parfois quelques pics un peu d'ironie.
Ah bien sûr, oui, il y a comme dans le fond même un cri d'alarme ou un cri d'alerte par rapport à la situation, à certaines situations dans certaines institutions, mais c'est peu de le dire. La semaine dernière, il y avait la grève des éducateurs spécialisés dans le milieu de la protection de l'enfance qui témoignent des conditions assez terribles de travail et de prise en charge des enfants. Ça, c'est sûr qu'il y a, oui, il y a un appel dans le texte, un appel à ouvrir les yeux.
Oui, parce que comme tu viens de le dire, c'est vrai que on voit régulièrement dans les journaux télévisés ou dans les journaux justement, la manière dont il y a des manques de moyens financiers déjà,
oui,
et peut-être du coup par voie de conséquence des manques de moyens humains, mais plus largement la manière vraiment humainement, on va dire. En enlevant le côté financier, la manière humainement dont ces jeunes pourraient être pris en charge. Est-ce que tu trouves qu'en France, peut-être que tu as travaillé dans d'autres pays, mais est-ce que tu trouves qu'en France, c'est quelque chose qui est plutôt acceptable, qui pourrait être mieux ?
Alors, c'est sûr que ça pourrait être mieux, mais je pense qu'il y a des périodes où ça a été mieux d'ailleurs, où il y avait plus de moyens, et puis il n'y avait pas, mais ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'on entend un peu partout, c'est-à-dire le management avait moins sa place, donc les gens avaient plus de liberté de parole, déjà entre les salariés eux-mêmes. Et ça va pas du tout en s'arrangeant, c'est une certitude, enfin, c'est force est de le constater. Après, Sauver la peau, c'est un texte qui travaille sur une chose bien précise aussi pour moi, au-delà de l'institution, c'est comment, en fait, ce qu'on connaît, ce qu'on peut rencontrer dans la famille, ce qui se joue dans la famille, en fait, se reporte dans l'institution sociale de soins. C'est un texte qui travaille là-dessus. Mais comme dans La nuit, la chair, je pourrais dire, il y a une chose... dans La nuit, la chair, ça joue un peu, enfin ça déplace, mais ça joue un peu sur le même ressort, c'est-à-dire comment dans une relation de couple se rejoue quelque chose de sociétal.
D'accord. Et du coup, je me demandais vraiment si ton écriture était tirée véritablement de cette expérience. Où tu l'as évoqué, mais j'aimerais que tu reviennes dessus, s'il y avait vraiment une nécessité d'écrire précisément là-dessus. Maintenant, aujourd'hui...
Ah oui, il y a eu une nécessité au moment de l'écriture. Moi, j'étais en situation de travail auprès de jeunes adolescents, donc psychotiques, en souffrance, etc. Enfin, voilà, il y a la phrase de cette éducatrice qui est dans Sauver la peau, qui parle à une jeune gamine qui devait déplacer ses affaires de sa chambre, etc. Et elle pouvait pas, sa famille d'accueil pouvait pas prendre les affaires, etc. Et l'éducatrice qui dit à la gamine, oh, tu vas encore nous laisser toute ta merde dans l'institution en parlant de ses affaires. Et c'est cette phrase-là qui fait honte, en fait, moi qui me fait honte, à laquelle en général, ce que je dis souvent, ces phrases-là, on en entend souvent dans la vie quotidienne, souvent on ne peut pas répondre à ces phrases. Moi, ce qui me fait écrire, jusqu'à maintenant, c'est ce genre de situation, ce genre de phrase. C'est-à-dire, je ne peux pas garder ça dans ma tête. Il faut que je trouve un espace, un autre espace, pour décrypter ce que c'est et pour en sortir, en quelque sorte. Et pour en sortir et pour que les autres l'entendent. Et je pense que les autres s'y reconnaissent aussi. Voilà. Il y a toujours cette question-là.
Et justement, ce que tu évoques, moi, ça me fait beaucoup penser à l'onomastique. Un terme scientifique de tes textes, puisque, enfin, voilà, disons, sauver la peau, c'est ce que tu viens d'évoquer. On a aussi le grand poème dramatique, Un jour, nous serons humains.
Oui.
Voilà, l'onomastique est quelque chose d'important. Pour toi, tu veux que dès le titre, c'est une question un peu banale.
Ah oui, c'est très important.
Mais c'est
pas banal du tout.
Mais c'est quand même important de le demander. Comment est-ce que tu travailles le titre? Est-ce que c'est en lien avec l'édition, avec l'éditeur, ou c'est vraiment...
Alors au tout départ, pour Un Batman dans ta tête, on a cherché ensemble le titre. C'était pas le premier titre. Après, c'est souvent mon point de départ. J'ai les éléments dans mon esprit, disons, de ce dont va parler la pièce, etc. Et donc, je cherche le titre. Pour moi, c'est comme une bouée, je pourrais dire, ou comme un cap, quoi. Comme une... Oui, c'est très important, le titre, ouais. Ça oriente, quoi. Déjà, au titre, il faut que ça puisse raconter un univers, disons, ouvrir un espace.
Alors, je te propose à présent de faire une légère pause musicale, mais une pause musicale qui te correspond, on va dire, puisque je t'ai demandé par avance quelle musique t'intéressait. Et donc, va passer tout de suite un extrait, alors coupé parce que le morceau est très long, un extrait d'Anony qui s'appelle Drone Bomb Me. J'aimerais que tu nous la présentes un peu avant qu'on l'entende. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce morceau, voilà. Rapidement.
Alors Anony, avant, il faisait partie d'un groupe, il s'appelait Anthony and the Johnsons, et j'écoute très souvent quand j'écris, en fait. Souvent j'écris, je l'écoute, et j'aime beaucoup, j'adore sa voix. C'est un homme-femme, il est devenu transsexuel, enfin il est femme maintenant, il est plus transsexuel, il a eu un passage transsexuel, c'est une femme maintenant qui s'appelle Anony, et c'est, voilà, c'est très beau.
Side of the mountain. blow my head off, explode my crystal buds, lay my purple on the grass. Let me be the first. I'm not so innocent. Let me be the one, the one that you choose from above.
After all,
I'm partly to blame. So drum bomb me, blow me from mountains and into the sea. Blow me from the mountains and into the sea.
Alors nous revoici toujours en direct de la Calade, toujours sur l'écho des planches. Donc je rappelle pour les auditeurs qui nous ont rejoints peut-être pendant ce morceau musical d'Anony que nous sommes avec David Léon, auteur publié chez Espace 34 et qui... à une actualité dans le off, je vais le rappeler maintenant, hein, c'est important que les gens, les auditeurs le retiennent bien, puisqu'il lira Neverland, dont il nous lira un extrait à la fin de cette émission, au Théâtre Artéphile à 18h le 19 juillet, dans le cadre de l'événement Artéphile les Officieuses. Cet événement commence le 12 juillet et se termine le 19 juillet, et voilà, ça consiste en des lectures de textes de théâtre contemporain et des rencontres entre le public et les artistes programmés dans le théâtre. Et je vous conseille vivement d'aller en voir la programmation. Sera lu également « Un jour, nous serons humains » par Frédéric Dufour de la Compagnie des Grisettes, les jeudis 20, vendredi 21, samedi 22 juillet 2017 à 20h. Alors j'aimerais, avant qu'on entende un deuxième extrait de ton écriture, un extrait de « La nuit, la chair », te poser une dernière question. Tu écris dans cette pièce, dans Sauver la peau, la pièce dont on parlait avant la pause musicale, tu écris qu'il y a l'auteur à un moment qui parle, on dit l'auteur, il y a une incise qui dit l'auteur, et tu expliques en gros, je ne sais plus exactement la situation exacte, mais tu expliques que l'auteur, le moi, le je, serait un arrangement. Et je trouve que en cela, c'est proche. Je pense, c'est proche de Jean-Luc Lagarce, qui a exactement la même appréhension. Et c'est pour cela que les personnages de Lagarce, comme les tiens, sont si difficiles à saisir. C'est qu'ils savent sans cesse jouer un rôle et peut-être donner toujours l'illusion d'être responsable d'eux-mêmes, hein, comme dit le personnage de Louis dans juste la fin du monde. Voilà, c'est son projet, alors qu'il est en train de mourir, puisqu'il est atteint du sida et qu'il revient dans sa famille. La seule chose qu'il veut, c'est voilà, faire semblant d'être responsable. Et on a l'impression, alors pas dans un Batman dans ta tête, mais dans Sauver la peau, je trouve que c'est quelque chose... Est-ce que le personnage fait semblant d'être responsable? Ou est-ce qu'il ne maîtrise rien du tout? C'est une vraie question que je me suis posée en lisant le texte.
Ah, je pense qu'il ne fait pas semblant. Et je pense que l'écriture ne fait pas semblant. Il ne fait pas semblant, mais dans l'espace de l'écriture, en fait, le jeu est un arrangement, c'est manière de dire, le jeu est un arrangement social, mais dans l'espace de la littérature et du texte, le jeu est vrai.
Le jeu est un autre, comme dirait Rimbaud.
Oui,
aussi.
C'est ça, le jeu est un autre. Le jeu est un autre, oui, ça rejoint ça. Dans la littérature, le jeu est un autre. Alors après, je me suis amusé dans Sauver la peau à redémultiplier justement cette question du jeu. Parce qu'il y a un jeu entre guillemets, il y a un jeu sans guillemets, et il y a l'auteur. Donc il y a trois instances dans une personne. Comme dans un Batman, il y en a deux. Il y a une voix qui lui parle, et le jeu qui n'arrive pas à dire je, qui dit je finalement.
Oui, ça c'est une dimension de ton œuvre assez intéressante aussi, c'est ce partage des voix comme, euh, comme on pourrait dire, comme dirait Sarrazac, des voix intérieures, des voix qui superposent, oui. Des voix qui s'échelonnent, des voix qui sont silencieuses aussi. Je pense dans peut-être dans la genèse de l'écriture. Comment est-ce que tu penses cet espace dialogique des voix, ce dialogue des monologues presque. Qu'on a dans ton œuvre. Alors dans Neverland, je trouve que c'est assez massif ce procédé. Comment est-ce que tu le goupilles, j'ai envie de dire.
J'y réfléchis pas vraiment, en fait. C'est encore une fois ça m'arrive comme ça dans l'écriture, ça sonne comme ça, disons. Après, pour Neverland, ce que je me suis aussi dit au bout d'un moment, ce que je trouvais beau dans l'écriture, c'est-à-dire l'écriture fait ça, c'est que là où je parlais d'absence de morale ou de jugement, ou que le jugement était du côté du lecteur ou du spectateur, c'est que dans l'écriture, tous les personnages, en fait, ils sont à égalité, on pourrait dire. Ils sont traités à la même enseigne, disons, par l'écriture. Et du coup, chaque fragmentation, chaque prise de parole dans Neverland met chacun à égalité dans son espace, qui est l'espace de l'écriture et de la parole.
Très bien. Alors, pour continuer cette émission et afin que nos auditeurs puissent avoir encore une idée plus précise de ton écriture, qui, je le rappelle, hein, est totalement différente selon les œuvres, on pourrait dire presque protéiforme. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais disons que, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une recherche différente pour chaque texte. Est-ce que c'est ton sentiment ou
Oui, c'est très juste. Oui, c'est vrai. Parce qu'à chaque texte, il y a une question. Mais il y a une question, quelquefois c'est très artisanal, hein, il y a une question de ponctuation aussi souvent. Pour Un jour nous serons humains par exemple, je me suis dit comme point de départ que j'allais travailler sur le point virgule. Sur La nuit et la chair, c'était sur les parenthèses. Pour Neverland, c'est l'absence de ponctuation, c'est une parole comme ça qui est fluide, assez lyrique. Donc à chaque fois, oui, il y a une question par texte.
Alors je propose aux auditeurs d'écouter à présent le second extrait, La nuit, la chair, lu par nos soins.
Vous déboulâtes comme d'un cheval sur les trottoirs, me retrouvez. Vous prîtes la main, la caressâtes.
C'est comme du cuir.
Vous prîtes ma bouche, ta langue au fond, l'avidité qui creuse ma bouche, la fait tourner, l'embourbe, l'envase, la trouble, la fait valser. Ta langue frétille, tu papillonnes, vous dites.
Pas de hasard, rien que des rendez-vous.
Je marche à vos côtés, j'emprunte vos escaliers, je ne suis que vacillante, au bord du vide. Tu tires sans bruit ta jalousie, tu la coulisses, les chiens qui jappent sur les trottoirs. Vous êtes assis en slip dans l'escalier, du cellulaire vous consultez les notes de ta ministre. Ces luttes sociales, décidément, n'en démordent pas. Dans la pénombre, je me dénude, je me camoufle sous vos gros draps. Vous y glissez. M'y rejoignez. Vous vous couchez en chien de fusil, vous étendez. Je me suis collé contre vos flancs, je vous caresse. Ma main remonte le long de vos cuisses, dans la sueur moite, vous grommelez.
Nos corps vont bien finir par se parler. Rester contre ton corps comme ça, à te frôler sans cesse, te caresser, rien que te ressentir, sans que tu me donnes jamais rien. À terme, ça ne sera pas tenable. Je bande. C'est difficile de se retenir.
Nos corps s'écartent instinctivement. Ils se détachent. Je me retourne sur mon côté. Une nappe nocturne qui se dévoile, qui se déchire. Une nappe sauvage. Une plage si âcre et si amère. Les chiens frémissent sur les trottoirs. Le temps qui passe alors si long. La jalousie. Ta garçonnière entrebâillée. J'ose revenir. Me rapprocher. Dites quelque chose. Vous soupirez.
C'est difficile.
Ma bouche se colle à votre cou, baise vos artères, une vague surgit électrisante, le vague m'inonde, la vague m'emplit. Un point plaqué contre mon ventre, dans ses tréfonds, ces flux nerveux qui m'irradient et qui irissent. Pris d'un élan, je me laisse faire, je me laisse aller, je prends sa main, la fais remonter le long de mes cuisses jusque mes fesses, dans ma cambrure, puis dans ma croupe jusqu'en dessous. Tes mains s'appuient, tu presses mes fesses, tu les empoignes, de l'autre bord, tu presses mon buste. Pousse ma poitrine, tes doigts l'enserrent. Je hisse ma langue balance, je la remonte, la redescends. C'est comme une valse, un cha-cha-cha, comme un tango. Tu me regardes, Tes doigts se glissent sur ma figure. Vous dites.
Ta bouche est si sucrée.
Mes mains s'enroulent sur ton visage. Elles s'y encastrent. Je suis comme prise dans un vertige. Je me suis juchée contre sa bouche et je m'enivre de son haleine, de son relent. Mon ventre brûle et je ruisselle et je m'écoule. Vous dites encore.
Je ne veux qu'en jouir, jusqu'en mourir.
Voilà, donc nous venons d'entendre un extrait un peu cru, mais poétique. Enfin, la crudité est poétique dans ton œuvre de La nuit, la chair. Alors, on parlera de La nuit, la chair juste après, mais il y a une question aussi qui revient souvent dans ton œuvre, c'est que tu poses vraiment la question de la légitimité de la littérature. On a beaucoup parlé de la nécessité de l'écriture, et j'aimerais qu'on parle vraiment de la légitimité de la littérature. À quoi elle pourrait servir? Mais je pense que voilà, il y a une réponse. Je pense avoir trouvé une réponse dans ton œuvre qui explorerait, j'ai presque envie de dire, la cosmogonie de nos désirs, notre rapport à la sensualité et au sexe. C'est la recherche que j'ai l'impression que tu mènes dans La nuit, la chair, où le rapport sexuel en tant que tel devient quasiment le seul moyen de communion entre les personnages et pas simplement de communication. Est-ce que tu penses que la littérature et le spectacle de théâtre peuvent nous permettre de désirer, de désirer vraiment, d'apprendre à désirer? Est-ce que la littérature apprend à désirer, nous apprend à désirer? Est-ce que c'est ton sentiment? Parce que j'ai l'impression, quand je lis tes textes, que t'es dans cet endroit-là, où je me trompe peut-être. Qu'est-ce que t'en penses?
Oui, apprendre à désirer, je sais pas, pour moi c'est apprendre à... Pour moi, plus ça va, plus c'est lié à un endroit de apprendre à parler, surtout. Apprendre à retrouver l'espace de parole, d'une parole, et à mettre des mots et une parole sur des zones obscures sur lesquelles c'est compliqué de parler, où il y aurait une illégitimité à parler, justement. Donc, dans ce sens, oui, c'est relié au fait de retrouver du désir. De réouvrir de la vie aussi, puisque le désir, c'est la vie. C'est reprendre la parole, c'est reprendre confiance, c'est retrouver ces espaces-là.
Et du coup, la sexualité est un moyen d'accéder à cette vie, pour toi, dans l'écriture, hein, j'entends.
Oui, on pourrait dire que l'écriture est une forme de la sexualité, d'ailleurs. Il y a une chose très érotique dans le fait d'écrire, dans le plaisir des mots, de la langue, de... Après, dans La nuit, la chair, c'est particulier parce que l'endroit de la sexualité dans La nuit, la chair, il est bloqué en quelque sorte parce que l'homme qu'il et elle rencontrent, parce que ça peut être, là encore, il y a égalité, un homme ou une femme, là encore, tout le monde est à la même enseigne, disons, dans le texte. L'homme qu'il ou elle rencontre refuse de parler, dit qu'il ne sait pas parler, qu'il ne peut pas parler, avoir un autre type de parole.
Et je trouve justement, alors je parlais de la garce juste avant, je trouve que tout ça c'est très coltésien finalement. Je pense que c'est un auteur que tu fréquentes ou que tu as lu.
Oui, que j'ai lu beaucoup aussi, oui. Et j'ai écouté aussi beaucoup, j'aimais bien l'écouter, Coltès.
Et justement, Coltès, lui, dans sa manière, enfin, pour Coltès, il explique que la seule chose qu'il veut mettre en scène, c'est un désir. Il a cette magnifique formule, un bout du monde qui appartienne à tous. Il dit ça dans Un hangar à l'ouest. Est-ce que c'est aussi ton sentiment en tant qu'auteur de théâtre?
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça rejoint, je crois, pour moi, ça rejoint quand je dis que tout le monde a la même enseigne dans l'écriture. C'est un peu le seul endroit où il y a, où c'est encore possible, disons, où les hiérarchies sociales, elles s'écroulent.
Justement, pour rebondir encore, Coltès disait que le théâtre, c'était, je crois, le seul endroit... Il n'aimait pas le théâtre parce qu'il disait que c'était le seul endroit où on disait que c'était pas la vie. Non, que c'était la vie. Non, que c'était pas la vie, mais qu'en même temps, c'était la vie. Qu'est-ce que tu en dis
Non, c'est pas la vie. C'est pas la vie. Il y a un filtre qui est mis sur la vie.
Et justement, La nuit, la chair, Tu parles de ce filtre, il est très intéressant ce filtre. On a parlé juste avant de psychose et de névrose, et j'aimerais maintenant qu'on parle de fantasme.
Oui.
C'est un peu cru, mais.
Voilà, c'est ça, pour rejoindre ce que tu dis juste avant, il y a un filtre qui est de l'ordre du fantasme.
Oui, voilà,
c'est ça. Il y a un fantasme qui est mis en scène.
Et
ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas moins vrai que l'espace réel.
Oui, bien sûr. Et justement, ce filtre aussi entre le fantasme et la fantasmagorie.
Oui.
Et d'ailleurs, La nuit, la chair, c'est une sorte de récit introspectif d'une femme ou d'un homme, hein, comme tu viens de le rappeler,
oui,
qui raconte comment il ou elle livre son corps, en quelque sorte, et s'abandonne à la solitude de son partenaire qui, comme tu l'as rappelé, ne parle pas ou dit qu'il ne sait pas parler.
Oui.
Cet homme qui est censé être un homme de pouvoir, un homme politique un peu méprisable, j'ai l'impression, dans la
Je ne sais pas s'il est méprisable, en tout cas, il est dans un espace social de représentation sociale.
Et du coup, je me demandais si, encore une fois, peut-être cette façon d'écrire serait une manière pour toi de montrer qu'on est toujours seul face à l'autre et toujours impuissant, et que même le désir, finalement, ce serait pas grand-chose. Enfin, j'ai l'impression que j'ai eu ce sentiment en lisant La nuit, la chair.
Qu'on est toujours seul l'un face à l'autre,
oui.
Je ne crois pas. Moi, c'est pas ce que je crois. Après, la pièce, elle travaille sur un endroit bien précis qui est celui, encore une fois, d'une honte sociale. Ça parle aussi de la honte sociale, de la différence de classe, pour le dire comme ça, et ça parle aussi de la domination. Et ça parle aussi, je crois, de la domination de la culture. Parce que ça se passe dans un espace culturel, dans un théâtre, qui est le lieu où on regarde, où on est vu, etc. Donc ça parle de cet endroit-là, et de la différence aussi, je pourrais dire, entre un discours social et une parole de désir vivante qu'on a chacun, je veux dire.
Et justement, tu viens de nous redire que tu écrivais sur ces hontes sociales, sur cette impuissance finalement à l'exprimer. Et je me demandais si dans tes textes, il y a quand même, je trouve, beaucoup de pessimisme. Est-ce que c'est pas une fatalité pour toi, toute cette honte
C'est une fatalité si on n'en parle pas, si on ne met pas de parole là-dessus et si en quelque sorte on n'écrit pas. Mais je ne crois pas que ce soit une fatalité dans le sens où, pour en avoir fait l'expérience aussi, c'est pour ça que moi j'écris pour le théâtre, c'est pour rencontrer des gens et y a pas mal de rencontres où les gens parlent aussi en fait, et où ça libère une certaine parole. Là je pense beaucoup à Neverland en parlant de ça, sur la question de l'abus sur les enfants, etc. Donc il n'y a pas... de fatalité, les textes, ils peuvent paraître sombres, noirs, durs, violents, mais il faut bien des espaces où on s'occupe de cette violence et on lui donne une forme, en tout cas.
Et justement, ce personnage, donc qui est le narrateur ou la narratrice de l'histoire,
oui,
dans La nuit, la chair, dit à un moment cette très belle phrase: je m'enferme dans mon vertige. Et ça m'a beaucoup fait penser à Rimbaud, hein, à Rimbaud, qui paraît beaucoup t'inspirer, peut-être. J'ai l'impression, en tout cas, c'est quelqu'un que tu as sûrement beaucoup lu.
Oui, pareil, il y a un moment, il y a longtemps, ouais.
Et qui lui prétend dans le poème qui s'appelle L'alchimie du verbe, qui se trouve dans une saison en enfer, il y a cette formulation, à un moment fixer des vertiges. Et justement, tu disais que finalement, la violence qui était dans tes textes, la dureté, c'était peut-être un prétexte. Mais moi, je me demande si cette manière de fixer des vertiges, tu ne le détournerais pas dans ton écriture en condamnant l'horizon qui s'ouvre au personnage.
Ça peut donner cette impression-là, mais... Je crois pas que l'horizon soit condamné. Je crois pas parce que le personnage parle. Donc il est sauvé en quelque sorte. Après, ce que tu dis sur enfermé dans son vertige, c'est comme aussi une métaphore, disons, de mon écriture. Moi, j'écris en quelque sorte aussi pour ne pas rester enfermé dans mon vertige, ou dans le vertige où il n'y a pas de parole, où il n'y a pas de mots, et où il n'y a pas de forme non plus, où c'est complètement, voilà.
Alors j'aimerais qu'on en arrive à évoquer un troisième texte de ton œuvre. Un jour, nous serons humains.
Oui.
Alors c'est un texte, si c'est bien celui-là, tu me dis si je me trompe, mais ce texte a eu le prix des journées des auteurs de Lyon.
Oui.
Alors c'est un prix assez important hein, pour un auteur de théâtre. Ça, c'est quand même une certaine reconnaissance, je le précise pour nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas. Et Un jour nous serons humains est un texte, c'est un ovni, j'ai l'impression, dans ton œuvre. C'est un texte vraiment totalement différent. Il s'agit d'une sorte de poème dramatique.
Oui.
Voilà, c'est en tout cas comme ça qu'il est présenté, si mes souvenirs sont bons.
Oui.
Et avec quelque chose d'un souffle lyrique presque proche d'Aimé Césaire, hein, dans un certain moment j'ai trouvé, dans son flux et dans ses attaques. Et en même temps, il y a quelque chose d'un rythme assez particulier. Et je me demandais comment est-ce que tu avais travaillé ce rythme et surtout pourquoi tu as écrit un tel texte. Parce que ça m'a vraiment posé question quand je l'ai lu par rapport aux autres. Parce que même dans la manière d'agencer l'espace, c'est totalement différent. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ?
Alors, il y a deux choses pour l'écriture d'Un jour nous serons humains. La première chose, c'est la phrase d'une pensionnaire là où je travaille, donc une femme d'une cinquantaine d'années, schizophrène, qui entre dans le bureau, qui montre ses mains et qui dit « Un jour, je serai humaine ». Et je trouve cette phrase sublime. Donc, je me pose la question... Quel texte pour le théâtre avec cette phrase ? Il faut faire quelque chose de cette phrase. Il y a ça. Donc je mets au pluriel ensuite. Et puis à cette époque-là, il y avait toutes ces images sur les enfants gazés en Syrie, sur Internet, etc. Tout ce défilé d'images. Et intérieurement, c'est pareil, c'est toujours le même processus. Ça fait honte. Ces images font honte, on ne peut plus parler. Je me disais, c'est pas possible que ces images continuent de défiler sans que... Qu'est-ce que c'est ? Donc ça s'est infusé dans le texte. Et avec l'idée maîtresse, je dirais, dans le texte, de redonner, puisqu'on ne peut rien dire, puisque ces images nous coupent la parole, le seul espace où on puisse revoir réellement ces images, c'est dans l'écriture. Et la troisième chose, sur la question que tu poses sur le rythme, le souffle, c'est le point-virgule. Je me suis dit comment arriver... Parce que mon idée aussi, comme ça, je partais un peu dans mon délire, je me disais ce qui serait beau, ce serait de faire un texte de 10 pages comme ça, qui aurait été comme arraché d'un grand livre, d'un très grand livre, et il resterait que ça, un jour nous serons humains.
Et justement, on a presque l'impression qu'un jour nous serons humains, ce serait un texte prophétique, mais un texte prophétique très particulier, un texte prophétique qui s'étouffe, j'ai l'impression, sans cesse. Alors c'est peut-être pas ton sentiment hein, quand tu travailles le point virgule, mais moi j'ai trouvé que ce point virgule étouffait. Alors c'est pas négatif, c'est pas une critique, hein,
oui,
mais
oui.
Que ce texte prophétique s'étouffe sans cesse, et en même temps qu'il est une source de paroles, il est un puits de paroles dans lequel on tombe. Et la vraie question que je veux te poser par rapport à ça, c'est en fait à qui tu l'adresses. Parce que si on prend la profusion lyrique, par exemple, chez Olivier Py, le lyrisme chez Olivier Py, il est surtout signe de... c'est presque le signe d'une... Enfin, c'est le signe permanent d'une désillusion. Je trouve, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'interprète. Mais toi, un jour, nous serons humains, il ne me semble pas que ce soit un texte sur la désillusion. Alors, comment est-ce que tu te situes, justement, à qui est-ce que tu adresses ce texte ?
Ben, comme il est dit dans le texte, aux hommes et aux bêtes, c'est-à-dire un espace poétique aussi. Un espace poétique et puis un espace, comment dire, de communauté, voilà, à une communauté d'hommes. Parce qu'il est perçu comme un... Puis il est présenté comme ça d'abord, comme un monologue, comme une parole de quelqu'un de solitaire, tout ça. Mais moi, je le travaille souvent avec des élèves au conservatoire, en groupe, en chœur. Et quand il y a une choralité, comme ça, c'est très beau. C'est aussi comme des témoins qui viennent, comme des acteurs témoins qui viennent rendre compte d'un état du monde et qui, encore une fois, surtout, viennent remettre une parole, redonner de la parole. En fait, pour moi, c'est un texte d'espoir aussi.
Et donc, on va terminer en parlant de Neverland. Alors, c'est assez... j'aimerais évoquer rapidement un texte qui est paru en 2015 de Frédéric Vossier, un texte qui s'appelle Taoé sur Elvis Presley. Et je sais pas si tu l'as lu.
Non, je l'ai pas lu.
Et donc dans ce texte, c'était un texte sur la mort du chanteur, et il oscillait véritablement entre l'hystérie et la mélancolie. Et je me demandais, pour revenir à Neverland, tu l'as évoqué rapidement, mais pourquoi t'être intéressé spécifiquement à la figure, disons, mythique de Michael Jackson, et puis à cette histoire d'abus sexuels?
Je me suis intéressé à Michael Jackson parce qu'on m'a commandé un texte pour France Culture qui devrait être créé avant la fin de l'année. Moi, j'aurais jamais pensé seul à Michael Jackson. Donc, on m'a proposé d'écrire sur Michael Jackson. J'ai dit oui et je me suis dit, mais comment je vais faire? C'est impossible. Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas faire un biopic. Il y a tellement de choses qui ont été dites sur Michael Jackson que pour trouver le point d'entrée pour faire une pièce, d'abord je me suis dit que j'y allais pas y arriver, et puis j'ai cherché, j'ai regardé en me demandant, mais qu'est-ce que c'est en fait Michael Jackson, de quoi est-ce que ça parle, de quoi est-il le nom en quelque sorte? Et je suis tombé sur la question des gamins qui avaient porté plainte, que ce soit vrai ou que ce soit faux, en fait j'ai déblayé la question, c'est pas la question m'intéresse, et puis la question elle est venue en résonance avec plein d'autres thématiques de mon écriture. Donc une fois que j'ai eu trouvé la question de l'abus sur les enfants, voilà, j'ai pu écrire toute la pièce très vite.
Alors, avant qu'on se quitte, on n'aura sans doute pas le temps de lire un nouvel. Tu n'auras pas le temps de nous lire un extrait de Neverland. J'aimerais rappeler que dans cette calade, nous venons d'évoquer là des livres qui sont publiés aux éditions Espace 34. Et dans le cadre de la Maison Jean Villard, on a un événement. Qui s'appelle Un jour un éditeur, qui est un rendez-vous quotidien du 7 juillet au 26 juillet de 17h à 18h et qui va avoir vraiment l'opportunité de découvrir chaque jour un éditeur qui choisit lui-même ses invités et sa discussion. Alors c'est un rendez-vous auquel la nouvelle directrice de la Maison Jean Villard, Nathalie Cabrera, en s'associant à la librairie du IN et la librairie du OFF, en partenariat avec la Chartreuse qui gère cette librairie, tient beaucoup. Elle l'a rappelé lors de l'ouverture de la conférence de presse en présence d'Olivier Py. Et donc je parle de tout ça puisque le 21 juillet, nous aurons ici dans la calade de 17h à 18h Sabine Chevalier, donc d'Espace 34, dont tu as évoqué l'aide qu'elle t'a apportée et puis son soutien en tant qu'éditrice, qui recevra Pierre Monastier, journaliste de Profession Spectacle, Pascal Griandini, directrice de l'association Posture, et l'auteur Michel Simoneau qui a eu pour Delta Charlie Delta le prix Colidrame 2017.
Un grand texte.
Donc à lire alors, et aussi tes textes à lire, je les rappelle rapidement avant de terminer cette émission. Donc Un Batman dans ta tête, Père et Fils, Sauver la peau, Un jour nous serons humains, La nuit la chair, et le dernier, Neverland. Merci David Léon d'avoir été notre invité pour cette émission, et bonne lecture à tous nos auditeurs des textes de David Léon.
Merci.